Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Alors nous avons fait déjà les 45 principes à connaître. Et je sais que beaucoup, la plupart d'entre nous ont été bénis, avons été bénis. Et nous avons commencé la semaine dernière 30 questions que se posent souvent les célibataires. Comme a dit le pasteur Yves tout à l'heure, cela ne concerne pas seulement les célibataires. Et j'ai envie de dire, même si tu es marié, évidemment il est trop tard. Mais tu n'apprends pas ces choses seulement pour les autres, mais même pour toi-même. Alléluia. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alors la semaine dernière, je me suis arrêté au principe numéro 15. Je ne sais pas numéroté, mais qu'importe. On va reprendre. 13. Ah, vous avez noté, 13. Waouh, je suis impressionné. Bon, quand même pas 12 là-haut. Bon, qu'importe. La semaine dernière, on a fini par cette question. J'ai bien dit, le thème d'aujourd'hui, c'est 30 questions que se posent souvent les célibataires. Étant une jeune convertie à Christ, que faire si mon copain converti, enfin, ayant accepté ou pas le Seigneur? Donc j'ai dit non converti. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit, ah, moi, ma mère, elle est convertie depuis 20 ans. Je dis, ok. Je ne sais pas ce qu'elle a compris par converti, mais on va dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais on a vu tellement de gens, 20 ans. Hier encore, il y a un frère qui m'a raconté l'histoire d'un pasteur au Ghana. Un pasteur qui a vécu, je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, 15 ans avec sa femme. Ils ont eu l'amour, ils ont fait l'amour 4 fois. Ils ont eu 2 enfants. Et la femme, elle a voulu divorcer. La femme a demandé le divorce. Et son père, quand on en a parlé à son père lui a dit, hors de question, tu ne divorceras pas. Parce que c'est un homme qui est connu, qu'on voit partout à la télévision, à la radio, on l'écoute. Il n'y a pas de raison, c'est un pasteur qui est reconnu. Et jusqu'au jour où elle a amené à son père une lettre de son mari qui correspondait avec un autre homme. Il était homosexuel. Eh oui. Eh oui. Quand nous voyons ces choses, la Bible dit, sachez que l'heure est proche. Alléluia. Alors nous avons vraiment tous besoin d'acquérir l'instruction et d'avoir l'intelligence renouvelée. Sachez qu'un titre ne préserve pas du tout. Pasteur, apôtre, bishop, archibishop, patriarche, prophète des nations, mon ami, tout ce que tu veux. Tu peux connaître tous les types de démons, tous les 666 ou 67 types de démons qui existent sur la terre. On s'en moque. Et mon ami, ça ne veut rien dire. Laissez-moi vous dire une chose. Vous qui voyez les démons partout, dans les tableaux, dans les cheveux, hein, à la maison. Laissez-moi vous dire une chose. Ce qui te détruit, nous savons tous, ce n'est pas le diable, c'est ce que tu ne connais pas. Amen. Chasse l'esprit de tristesse. La joie ne vient pas automatiquement. Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit. La joie vient au fur et à mesure que tu grandis dans la communion intime avec le Saint-Esprit. La joie entre alors que tu prends le Saint-Esprit par la main et tu dis, Seigneur, je me laisse remplir par toi. Là, la joie, elle vient. Il y a des gens aujourd'hui qui voient des démons partout. C'est les charismatiques pentecôtistes, ils exagérés. Déséquilibrés. On ne dit pas qu'il n'y a pas de démons. On dit simplement qu'il ne faut pas avoir les démons partout. Amen. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, dans les 45 principes qu'on a étudiés, assure-toi que vous avez vraiment les mêmes fondements dans la parole. Dites Amen. Et si c'est déjà fait, vous êtes déjà marié, alors humiliez-vous pour reconnaître que la Bible, la parole de Dieu, est la seule source d'autorité dans votre vie. Pas la parole du pasteur ou du prédicateur. La parole de Dieu, la Bible. Ce que je dis, si ce n'est pas fondé sur la Bible, prenez les cailloux, bon, pas pour moi, hein, quelqu'un d'autre. Prenez les cailloux, puis ils disent, oh, abomination, blasphème, vous jetez. Et il faut étudier la parole de Dieu. C'est la parole qui transforme. Monsieur est marié avec madame, et le jour où ils ont une dispute, Je parle de ce que je vois aujourd'hui. Ils ont une dispute et madame, elle dit, madame, elle va faire 14 jours de jeûne. Vous savez pourquoi? Pour chasser l'esprit de dispute. Alors, pendant 14 jours de jeûne, elle va chasser. Au nom de Jésus, est-ce qu'il y a dispute? Je te chasse de mon foyer, je te chasse de mon foyer. Alors qu'elle a un caractère de sauvage. Mon Dieu! Plus tu parles comme ça, plus l'esprit de dispute vient. Il dit, je me sens à l'aise avec toi. Oh non! C'est pas démon, c'est la communication. La communication est dans une relation de couple. Et d'une manière générale, la communication est dans des relations humaines, aussi bien dans le travail que dans la maison, avec les enfants, partout. La communication est dans une relation humaine, ce que le sang est dans le corps. Le problème, c'est pas le démon, le problème, c'est le manque de communication. Alors, on lui prend 14 jours pour aller chasser l'esprit de dispute. Assieds-toi et parlez ensemble. La communication renverse beaucoup de préjugés et de barrières. Dites Amen. C'est simplement un principe. Amen. Alors la semaine dernière, on s'est arrêté à cette question que se pose beaucoup. Les célibataires. Étant un jeune converti, pourquoi j'ai pas mis un jeune converti? Pour la simple raison que le sexe n'est pas un besoin primaire de la femme. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas besoin, je dis que ce n'est pas son premier besoin. Je dis que c'est un besoin important et primaire, enfin, le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est le sexe. C'est pas qu'il est anormal, il est normal, mais c'est comme ça. Dites Amen. Alors, la sœur se pose la question, s'il ne veut pas accepter l'abstinence jusqu'au mariage, parce que c'est ce que la Bible dit, qu'est-ce que je dois faire? Et la fois dernière, on a répondu simplement que là, ma sister, tu as un gros dilemme devant toi. De toutes les manières que tu choisisses le Seigneur, que tu choisisses ce garçon, cet homme, ça va te faire mal. Dites Amen. Maintenant, c'est à toi de choisir. L'ironie, je l'ai dit la semaine dernière, c'est que la plupart des gens qui abandonnent Dieu pour suivre un homme se voient un jour ou l'autre lâchés par cet homme qu'elles ont suivi. Malheureusement. Alors, la sagesse veut simplement que tu dises à cet homme-là, bon, ok, je t'aimais beaucoup, ça va faire mal, mais je n'ai pas le choix. Il est ma source de vie. Il est le créateur, tu es la créature. Il est le maître, tu es l'esclave. Qui choisir? La question ne se pose même pas. Alléluia. Dans tous les deux, dans les deux cas, ça va faire mal. Sauf si ça fait mal, parce que lui t'a abandonné, Christ a dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Va panser les blessures. Mais, ma soeur, si tu choisis l'homme le jour où ça ne va pas, qui te consolera? Une chose que j'ai toujours dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ne me laisse jamais tomber. Ne me retire jamais ta grâce. J'ai tellement chassé de démons dans ma vie, j'ai tellement détruit les œuvres du diable, que plus, j'ai dit, Seigneur, de toute façon, là où je suis, je n'ai même pas le choix. Si Satan te poursuit, c'est pas un problème. La Bible dit, celui qui repose sous l'abri secret du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri secret du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu te mets sous la couverture du Christ, du Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit la fois dernière, il y a un niveau de présence de Dieu. Il y a un niveau d'atmosphère divine. Où, là où le diable te poursuivait, moi j'ai compris mon secret. Lorsque tu vois que ça chauffe, ne crie pas, ne sois pas hystérique, ne te mets pas en colère. Tout ce que tu as à faire, c'est commencer à faire monter la vapeur. Commencer à faire monter la gloire de Dieu. Commencer à faire monter le niveau, l'intensité de la présence de Dieu. Et il va arriver à un niveau d'intensité de présence de Dieu où le diable ne peut même plus entrer. Il ne peut plus. Sinon, il suffoque. Il dit, oh, c'est pas, je n'en peux plus. Vous savez que beaucoup de gens vont aller en enfer parce que c'est pas parce que Dieu est mauvais. Beaucoup de gens vont aller en enfer parce que c'est là qu'ils peuvent aller. Ils n'ont pas l'autre choix. Il y a des gens qui n'aiment pas la sainteté de Dieu. Il y a des gens pour qui la sainteté c'est un enfer. Tout est pur, tout est propre. Il est dans la présence de Dieu, Dieu dit amour. Il dit non, est-ce que je peux moi haïr un peu? Dieu dit non, amour. Il dit ah non, moi je préfère haïr. Dieu dit bon alors en enfer. Dieu dit pureté, sainteté. Je dis Seigneur, un peu de fornication, d'adultère, au moins un peu. Dieu dit je ne peux pas, c'est pas, non, c'est pas ma nature. Alors comme tu as choisi le péché, tu vas aller en enfer. C'est parce que Dieu va t'envoyer en enfer, c'est toi-même qui vas y aller. Parce que La présence de Dieu, le paradis serait pour toi déjà un enfer, parce que tu ne supporterais pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Dites Amen. Il y a des gens qui le paradis c'est un enfer, parce que c'est trop beau, ils aiment la saleté. Tu le sors de la boue, tu la ramènes, tu le laves. Lui, il prend comme le chien qui retrouve ce qu'il a vomi, comme le porc, il repart encore dans le péché. Tu es à une mentalité de souris. Oh non, qui ne connaît pas la mentalité de souris ici? Qui ne connaît pas la mentalité de souris? Vous ne connaissez pas? Oh mon Dieu! La souris, prenez toute une famille de souris. Le patriarche, grand-papa, grand-grand-papa, grand-père, papa, le fils, toute la famille est là. Vous mettez un piège. Vous mettez un piège. Et puis, le grand-père sort de sa grotte. Et puis, il voit l'appât. Il voit la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Toute la famille le regarde de loin. Il sort. Parce qu'il va aller chercher à manger pour la famille. Alors, il sort. Et puis, il voit l'appât. Et puis, il voit un petit bout de viande. Et il arrive. Il va mettre sa main, sa petite patte. Pouf, le piège tombe sur lui. Il est coupé. La tête, pas coupée. Et toute la famille a vu. Demain. Remettez le même piège, le même morceau de viande, au même endroit. Là maintenant, c'est le grand-père. Il arrive, il ne réfléchit même pas. Il arrive, et puis il regarde autour de lui, personne. Le cou est coupé. Le lendemain, le fils, pareil, la même malédiction. Il a vu arriver dans sa famille. Il sait bien que ça va le tuer, mais il y va quand même. Souris que tu es. Que quelqu'un acclame le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la mentalité de souris. Ce même péché qu'a fait ton père, le même alcoolisme, la même cigarette, la drogue, la même fornication. Tu as vu ton père et ta mère être déchirés à cause des rapports sexuels en mariage. Et toi, tu es comme une souris. Tu repars dans le... Oh mon Dieu. Et puis après, tu as dit, c'est pas ma faute, c'est Satan. Non, c'est pas Satan, c'est toi. Ton ignorance, ce que tu ne connais pas. D'ailleurs, tu connais. Parce que la Bible dit que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur, dans la conscience de l'homme. Tu sais ce qu'il faut faire. Et tu dis, je n'ai pas la force. Si tu as la force, mais tu ne la laisses pas être activée. Parce que Dieu est tout puissant. Il a créé l'homme avec ce qu'on appelle le potentiel. Dans le mot potentiel, il y a le mot potent, c'est-à-dire la capacité. Tu as la capacité de dire non au péché. Ton seul problème, c'est que cette capacité qui vient de Dieu, qui a été placée en toi avant la fondation du monde, a été désactivée. Et lorsque tu viens à Christ, tu peux réactiver. Et lorsque Dieu dit, sois saint, Dieu n'a jamais dit, deviens saint. Tu ne peux pas devenir, tu es déjà saint. Mais au-dedans de toi, il faut simplement le laisser sortir de toi. Alléluia. Bon, je vais commencer quand même, hein, parce que sinon... Excusez-moi, jusqu'à là, j'étais seulement à l'introduction. Alléluia. Alors, donc, le point que nous allons commencer aujourd'hui, c'est une question que se sont posées beaucoup d'hommes. J'ai la vingtaine, et je sais ce que la Bible dit à propos des relations sexuelles hors mariage. Je veux bien obéir, mais mon problème, c'est que je n'arrête pas de penser au sexe. Alors que je chasse ces mauvaises pensées, que puis-je faire? Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alléluia. Bon, les hommes, qui s'est posé cette question déjà au moins une fois? Ah non, donc, ok, tout le monde est saint, personne n'est dans le péché, menteur! Personne n'a envie de lever le doigt, de lever la main, parce qu'il regarde à gauche, à droite, et puis il va des six, dès qu'ils sont là, il dit non. Si je lève la main quand même, ça me rabaisser, voyons. Je suis quand même un croyant, moi aussi. Vous savez, la vulnérabilité, la transparence, c'est important. Même quand tu as l'impression que ça te rend vulnérable, apprends à être transparent. Nous, on dit toujours ici, Superman est mort. Superman est mort. Il n'existe pas. Tarzan aussi, d'ailleurs, il n'existe pas. Même s'il est le bar de chocolat, ça ne veut rien dire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? D'abord, la première question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es? comment est-ce que tu en es arrivé à avoir sexe partout, mon frère? Que tu sois jeune dans la foi ou ancien dans la foi, peu importe. Il y a quelqu'un dans cette salle qui voit sexe tout le temps. Il sait que c'est mauvais, il voudrait bien s'en débarrasser, mais il n'arrive pas. Mais tu ne peux pas sortir en une journée ce que tu as pris des années à emmagasiner. Amen. Si ton cœur est rempli de pensées impures, c'est simplement parce que tu as bombardé ton cœur de pensées impures. Tu as bombardé ton cœur, tu as saturé ton cœur de paroles et d'attitudes sexuelles. Comment? C'est simple. Les portes d'accès au cœur, ce sont les oreilles, ce sont les yeux, c'est le toucher, c'est l'odorat, et c'est quoi le cinquième? Le goût. Bon, le goût, c'est quand tu as fait un bon repas, là. Amen. Si tu veux changer ça, tu n'as pas d'autre choix que de passer par le processus de reconstruction. C'est simple. Si tu en es là où tu en es aujourd'hui, c'est parce que tu as laissé n'importe quoi rentrer. Tes yeux se sont arrêtés sur n'importe quoi. Tes oreilles ont écouté du n'importe quoi. Et ne t'étonne pas de ce que aujourd'hui tu en es à penser ce que tu penses. Amen. Mais le moyen le plus simple pour en sortir, c'est simplement changer ce que tu vois, changer ce que tu entends, changer ce que tu touches, changer ce que tu respires et changer ce que tu goûtes. Dites Amen. Le même processus par lequel tu es passé pour te faire, pour te rendre esclave de ces mauvais, de ces pensées impures, tu dois passer par le même processus pour enlever ces pensées impures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon frère, tu deviens ce que tu entends régulièrement. Tu deviens ce que tu vois. D'ailleurs, ce que tu vois détermine ta destination. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Arrête de regarder là où tu ne dois pas regarder. Arrête de regarder les films pornographiques. Non seulement c'est pas bon pour toi, mais en plus, ça te rabaisse. Une personne qui passe son temps à regarder les films pornographiques a une sale, mauvaise image de la femme. Et d'ailleurs, il ne se rend pas compte, mais il se rabaisse lui-même. Et je sais qu'il y a encore des gens, malheureusement, qui le dimanche soir regardent M6. Et regardent encore Canal+. Et puis après, il dit: ah, mais je vais bien prier, mais je n'arrive pas à voir, j'ai pas la force de prier. Mais tu t'es tellement pollué. C'est toi qui es responsable de ta condition actuelle. Non, j'ai dit, tu es responsable. Arrête de blâmer ton père, ta mère, ton conjoint, ton ancien mari, ton ancienne femme. C'est toi le fautif. Pourquoi? Parce que même si on a fait quelque chose qui ne te plaisait pas, Dieu nous a donné à tous une ressource de manière équitable. La même ressource, c'est le temps. Avec le temps que tu as, tu peux encore faire autre chose. Dites Amen. Avec le temps que tu as, tu peux choisir de focaliser ton attention sur ce que tu veux demain et pas sur ce que tu fais hier. Le temps est la denrée et la seule ressource que Dieu nous a donnée de manière équitable. L'Europe a l'euro. Les États-Unis ont le dollar. L'Angleterre a le pound. La terre, les êtres humains ont la devise qu'on appelle le temps. Le temps, c'est le moyen d'échange. Je peux investir mon temps pour acquérir ce que je veux et puis pour me délaisser. Laisse-moi se passer, je n'en veux plus. Tu as le temps. Alors nourris-toi de la parole de Dieu. Écoute les paroles. Écoute Métanoïa Vie. Prends les cassettes de prière ensemble. Passe ton temps à écouter ça. Dites Amen. Écoute régulièrement des choses qui viennent de Dieu. Regarde régulièrement des vidéos qui parlent de Christ. Des chants, des trucs de louange. Regarde, tu es responsable. Dites Amen. Ce n'est pas une fatalité la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Ça peut changer. Ça dépend simplement de ce que tu fais. Vous devenez ce que vous écoutez. Proverbe 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Protège ton cœur. Mets une haie de protection autour de ton cœur et fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Parce que ton cœur est comme un champ. Tout ce que tu plantes dedans, ça va se multiplier. Toute semence que tu laisses planter dans le champ de ton cœur va se multiplier. Alors protège le champ de ton cœur. Alléluia. Le point suivant. Ça, c'est une révision. Comment puis-je faire pour construire une relation saine avec un homme ou avec une femme lorsque j'ai une relation difficile avec mon père ou avec ma mère aussi? ou lorsque je n'ai carrément pas connu de père ou de mère dans mon enfance. Alléluia. Ça, nous avons parlé la première semaine. Prenez les cassettes, de toutes les façons, elles seront bientôt disponibles. Nous avons parlé des blessures émotionnelles ou des vides émotionnels. Il a été démontré qu'une femme qui n'a pas eu une bonne relation avec son père, une femme qui n'a carrément pas eu de relation avec son père, a forcément un problème. Un homme qui n'a pas eu de relation avec sa mère a forcément un problème. Et chez les femmes, par exemple, le problème qu'elles ont, c'est le problème de soumission à l'autorité de leur futur mari. Pourquoi ? Parce que le fait de n'avoir pas eu de relation avec ton père, de relation tendre, merveilleuse, t'a frustré et beaucoup ont tendance à rejeter l'autorité du père. Amen. Vous savez, pendant que je pensais à ça, le Saint-Esprit m'a ramené sur l'histoire de David. Je n'avais jamais compris l'histoire de David jusqu'à juste il y a quelques temps. Voyez-vous, David, c'était un homme qui aimait Dieu. Amen. Mais David avait un problème. Vous savez lequel ? David n'avait pas d'amour pour les femmes. David n'a aimé aucune femme. Salomon, son fils, pareil. Dans lui, il avait carrément 700 femmes et 300 concubines. Bon, moi, on ne sait pas comment il a fait, mais vraiment. Il avait 700 femmes et 300 concubines. David, c'était un homme qui craignait Dieu. Tu peux craindre Dieu. Mais si tu n'as pas été guéri, tu peux te retrouver dans la situation de David, où tu as plusieurs femmes, mais tu n'as pas d'amour pour elle. David n'avait pas d'amour pour ses femmes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que David était un enfant illégitime. David est né d'une relation hors mariage. C'est pour ça que lorsque le prophète Samuel va oindre celui que Dieu a choisi parmi les fils d'Isaïe, il voit tous les fils. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et Dieu lui dit, il n'est pas là. Mais où est-il? Mais Samuel dit, mais okay, il y a un problème. En fait, il dit, ah, il me reste un fils. Pourquoi il ne l'a pas présenté tout de suite? Parce que c'était un enfant qui avait grandi pas dans la maison avec les autres. Il était à côté. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, hors mariage. Je suis né dans le péché. J'étais conçu dans l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Il y a un passage dans la Bible où simplement la Bible ne mentionne même pas la mère de David, sauf une fois. Sa mère vient le voir un jour, c'est tout. Il n'a pas eu de relation intime avec sa mère. Et lorsqu'il se retrouve avec les autres femmes, ben il a tendance à les traiter avec mépris. Il y a beaucoup d'hommes qui, parce qu'ils n'ont pas eu de relation intime, de relation affectueuse, de relation de complicité avec leur mère, qui ne savent pas transmettre quelque chose qu'ils n'ont simplement pas reçu. Et c'est pour ça qu'il y en a parmi vous, il a le besoin de changer tout le temps de femme. Et même quand il a une copine, ben il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation intime avec elle, il n'y a pas de complicité. Femme, mangez. Femme, bougez. Femme, couchez. C'est comme ça qu'on a formé les esclaves, d'ailleurs, en parenthèse. Amen. Mais mon frère, si tu es dans ce cas-là, sache que tu as besoin de guérison. Ne va pas te marier, tu vas tuer la sœur de toi. Et ma sœur, mon frère, si tu n'es pas capable d'aimer, ne te marie pas. Ma sœur, si tu n'es pas capable de te soumettre, je n'ai pas dit de te faire écraser. J'ai dit la fois dernière que la soumission, c'est simplement un concept biblique. Sous la mission, c'est lui le chef de la famille. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le gouvernement ou la société, Dieu l'a placé comme étant la tête de son foyer. C'est-à-dire qu'il a plus de responsabilités. Il a plus de comptes à rendre aussi devant Dieu pour comment il aura conduit son foyer. Mais j'ai dit, my sister, ma soeur, fais attention de ne pas te mettre sous l'autorité de quelqu'un qui lui-même n'est sous l'autorité de personne. Parce que tu n'auras que tes larmes, tes yeux plutôt pour pleurer. Tu vas te mettre sous l'autorité de quelqu'un, il dit, Dieu, je ne reconnais pas. Alors, il se soumet à qui? Chacun de nous doit se soumettre. Dites Amen. Chacun de nous doit se soumettre. Quelqu'un qui ne se soumet pas, c'est quelqu'un qui ressemble au démoniaque de Gadara. La Bible dit que personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait lui donner des conseils parce qu'il est le descendant direct de Salomon. C'est la sagesse incarnée. Son avis seul compte. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Quand il a parlé, tu n'as plus rien à dire. Et si tu vois ces symptômes-là aujourd'hui, sors de là. Il ne changera pas après le mariage. Après la lune de miel, il va peut-être se calmer. Mais il ne changera pas après. Alléluia. Il y a des chaises à gauche pour ceux qui veulent. Est-ce que c'est clair? Je peux passer? Question suivante. Question suivante. Que faire si une femme est plus âgée qu'un homme? On me l'a encore posé hier cette question. Je vous l'ai dit la dernière fois, la Bible ne donne pas d'instructions spécifiques et précises sur le cas où une femme est plus âgée qu'un homme. Alors, certaines églises ont pris des standings, elles ont pris des positions, elles ont dit, nous ne marierons jamais une femme et un homme dès lors que l'homme est moins âgé que la femme. C'est leur responsabilité et c'est leur choix. Amen. Mais ce que je dis, c'est simplement que la Bible ne dit rien là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de toutes les manières, on se rend compte que le succès, l'épanouissement dans le mariage ne dépend pas du fait que l'homme est plus âgé ou moins âgé que la femme, dépend simplement de la capacité que les deux ont à savoir marcher, à savoir mener une vie qui est complètement influencée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, si dans ton église, on t'a dit que ce n'est pas possible, bon courage. Dieu n'a rien dit de semblable. Amen. Question suivante. Quel devrait être l'écart d'âge idéal entre un homme et une femme qui veulent se marier? Alléluia. Ne soyez pas distrait, ne soyez pas distrait. Regardez-moi, regardez-moi. Comme dit Louis de Funès, regardez-moi. Regardez devant, s'il vous plaît. Amen. S'il n'y a plus de place, mettez-moi des chaises blanches, montez-les-moi, s'il vous plaît, et puis arrêtez les allers-retours. Quel devrait être l'écart d'âge idéal entre un homme et une femme qui veulent se marier? Là encore, la Bible n'a pas donné une instruction spécifique. Vous devez savoir que les femmes croissent généralement plus vite que les hommes. Amen. Par contre, vers 21 ans, il a été démontré que les hommes commencent à rattraper leur retard. J'ai dit simplement, ce qui est important, c'est que la femme sache, la femme et l'homme se mettent d'accord sur ce qu'on appelle la définition des responsabilités. Dès lors qu'on est d'accord sur qui est le chef de famille, c'est l'homme. Même si tu travailles, tu gagnes plus que lui. Il est le chef de famille. Donc, avant de te marier, réfléchis bien à tout ça. Si tu n'es pas d'accord, ne te marie pas. Il est le chef de famille. Peu importe ce que dit le MLF, le mouvement de libération de la femme. Nous sommes citoyens du royaume des cieux et nous obéissons à la constitution de notre gouvernement. Amen. Nous nous obéissons à la loi qui est en vigueur, non pas sur la terre, mais dans les cieux. Et le royaume de Dieu, lorsqu'il vient sur la terre, il amène sa loi partout où il se répand. Amen. Je le redis, le mariage, c'est un partenariat. Ce n'est pas un écrasement, une oppression, c'est un partenariat. L'homme et la femme, je ne vais pas le redire, sont parfaitement égaux. Il n'empêche qu'on peut être parfaitement égaux, on peut avoir les mêmes parts dans la société, 50-50, mais lorsqu'on arrive à des décisions où l'intérêt de la société n'est pas remis en cause, ou simplement c'est une question de divergence d'opinion, il faut bien qu'il y en ait un qui prenne une décision finale. Et la Bible dit, l'homme est la tête et le chef de son foyer. Ma sœur, toi qui m'écoutes dans cet endroit, ou au son de ma voix, n'épouse pas un homme qui n'a pas compris ce que c'est que le sens de la responsabilité. N'épouse pas un homme pour faire du babysitting. C'est lui qui doit être ton père. C'est pas à toi d'être sa mère. Alléluia. Et ne viens pas me dire, oui, mais pourtant il m'a dit qu'il m'aime. Ça ne veut rien dire. On ne construit pas une relation de couple, un mariage durable sur la base de l'amour. Dehors, les gens ne savent pas qu'ils se haïssent. c'est qu'ils ne se comprennent pas. Ils s'aiment, mais ils sont encore trop égoïstes. D'ailleurs, ils n'ont rien compris encore. C'est pour ça que 50% divorcent en Île-de-France. C'est pas qu'ils ne s'aiment pas, non. Au final, je suis sûr qu'il y a des... Mais pourtant, je l'aimais bien, mais je ne supporte plus. C'est pas l'amour qui permet de construire. La sagesse, la connaissance et l'intelligence. L'amour est un ingrédient indispensable, mais il n'est pas suffisant pour construire. Alléluia. Amen. Donc, je disais, quel devrait être l'écart d'âge idéal? Alors, il n'y a pas de réponse précise. Il y a simplement une question de bon sens et de sagesse. Quelqu'un a dit, mon père spirituel a dit, et là, je le dis sous sa couverture à lui. Amen. Il dit que tout excès de 10 ans d'écart, dans n'importe quel sens, est généralement considéré comme excessif. Parce que 10 ans, ça fait quand même une décennie. Vous risquez d'être complètement dépassé. Quand on va te parler, oh oui, tu sais d'où la guerre du Golfe on a vécu. Ah bon, c'est quoi la guerre du Golfe? On a du mal finalement à être en phase. Parce que lui, il dit, à l'époque de 1945, ah bon, tu dis, bon, je comprends pas ce que tu dis, parce que tu sais, j'étais pas là, j'étais pas dit à cette époque-là. Le danger même, c'est qu'il risque de devenir... Ou elle risque de devenir un peu comme un papy ou une mamie devant toi. Parce qu'on n'a plus forcément les mêmes expériences. Amen. Ceci dit, je ne donne pas un commandement. Je donne simplement, entre guillemets, un avis. Mais il faut quand même apporter une réponse à ce genre de questions, au moins en disant que la Bible n'a pas de réponse ferme et définitive là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Question suivante. Après combien de sorties ensemble? Donc ça, c'est le frère qui pose la question. J'ai dit, le frère pose la question. Puis-je proposer des fiançailles à une femme? Ma soeur, ne te rabaisse pas, on en dit, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, j'ai vu l'émission à la télévision. Je regarde pas souvent la télé, mais en direct, le Saint-Esprit, des fois, me pousse à regarder allumer ma télévision pour voir des bêtises qui vont me servir d'anecdote dans mes prédications. Et c'était il y a quelques jours, sur C'est mon choix, faut pas regarder cette émission, je vous assure. Quelle tragédie! Une femme qui va dire à la télévision devant tout le monde: ah, je t'aime, tu sais, veux-tu m'épouser? Et puis on dit au monsieur qu'il a quelques minutes pour réfléchir. Ce qui va être une décision qui va affecter toute sa vie. Il a quelques secondes pour réfléchir, quelques minutes. Et puis tout le monde est là, en train d'acclamer. Il croit que c'est un jeu. Il croit que le mariage, c'est un jeu. Je vous ai dit, il suffit d'une personne pour faire de ta paradis, de ta vie, pardon, un paradis ou un enfer. Une personne suffit. Et tu vas prendre une décision comme ça, parce que les gens s'attendent à clamer. Et quand notre foyer sera chauffé, ils ne seront plus là, mon ami. Ils ne seront plus là. Alléluia. La Bible dit, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Heureux l'homme qui a trouvé une bonne femme, Proverbe 18, verset 22. Car il obtient une femme, s'il a trouvé ce qu'il a cherché. Bon, alors après combien de sorties ensemble? C'est-à-dire, après combien de rendez-vous, vous apprenez à vous connaître là, hein? Vous apprenez à vous connaître, vous sympathisez. Et au bout de 5, 6 sorties, j'en sais rien moi, quelques sorties, hein? Si ma soeur ça t'intéresse et que lui ça l'intéresse, tu vois qu'il n'ose pas se prononcer, je l'ai déjà dit, bah, tu vas le voir, tu lui dis, est-ce que c'est toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'il faut attendre ou c'est toi? Dis ta position. Tu me fais tourner en rond, c'est quoi? Dis la chose. Tu veux quoi? Matthieu 11, verset 3. Tu veux quoi? Par contre, lorsque vous décidez de vous fiancer, c'est-à-dire lorsque vous décidez de vous accorder mutuellement du temps pour ensemble planifier une vie future possible, ne parlez pas dès le début des fiançailles, ne parlez pas de date de mariage. J'insiste. Les fiançailles, ce n'est pas tout de suite. Évidemment, l'objectif à terme, c'est de se marier. Mais lorsqu'on commence dans les fiançailles, on ne parle pas tout de suite de mariage. On voit d'abord le caractère. On voit d'abord la vision. On voit d'abord les choses qui sont cachées et qui ont besoin de venir à la lumière. Il y a beaucoup de gens que je connais qui étaient fiancés, qui ont dû arrêter au cours des fiançailles parce qu'ils ont vu que finalement, c'était pas bon du tout. Dites Amen. Parce qu'au début, on est toujours un peu emballé.
Ah, il est bien, waouh. Waouh.
En plus, il chante, elle chante dans la chorale. Oh, oh là là. Donc, quand je vais prendre cette position comme ça, là, quand elle dit Seigneur, je dis oh, hey. Mon ami, c'est pas ça qui permet de construire un mariage durable. Dites Amen. On ne parle pas tout de suite mariage. Sinon, quand on parle mariage, le danger, c'est qu'on a tendance maintenant à éviter de frustrer l'autre alors qu'on ne se connaît même pas encore. On a peur de blesser alors qu'on ne se connaît même pas encore. Il faut que le vrai caractère sorte. Il y a un frère qui s'est fiancé à une soeur. Ils sont restés fiancés pendant plus de 18 mois. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, d'ailleurs, un peu avant, il voyait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quand il a commencé le premier jour du séminaire ici, il a écouté l'enseignement sur les blessures et les vides émotionnelles. Et tout ce que je disais, lorsque la sœur dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» C'est exactement ce qu'elle faisait. Et ils étaient tous les deux assis ici. Et puis elle ne bougeait pas pendant qu'elle écoutait. Elle devait me haïr. Moi, je ne suis pour rien, moi. Toute sa vie était en train d'être dévoilée. Et moi, je ne savais pas. Et quand il a quitté ça ce jour-là, il a dit « Vraiment, je crois que c'est pour attendre. » Et pourquoi ce problème qu'elle avait, c'était le problème de soumission. Problème, elle n'a pas grandi avec son père. Plutôt, je crois qu'elle a un problème de haine, de ressentiment envers son père. Et donc, elle a rejeté tout ce qui est homme. Elle veut bien se marier, elle ne veut pas accepter le concept selon lequel l'homme, à un moment donné, aussi doit décider. Elle n'est pas prête pour ça. Et lui, il lui a dit, franchement, ça lui a fait mal. Ça fait 18 mois que j'étais fiancé. Mais mieux vaut arrêter maintenant. Ça saigne un peu, ça va cicatriser, plutôt que de continuer comme ça. Amen. C'est pour ça qu'on ne parle pas de fiançailles tout de suite. On se focalise d'abord sur le cas. Je vais venir tout à l'heure. Alléluia. Question suivante. Je vais aller vite sur celle-là. Si deux personnes ont des relations sexuelles parce qu'ils n'avaient pas de connaissance sur la parole de Dieu et qu'ils ont maintenant décidé de cesser tout rapport, est-ce qu'il est possible de corriger et de remédier à cette mauvaise fondation? Parce que clairement, je l'ai dit la semaine dernière, la fondation de ce genre de relation, c'est la malédiction. Peuvent-ils encore se marier s'ils se sont repentis de leur mauvaise voie? La réponse est oui. Condition de démontrer une repentance authentique et radicale. C'est-à-dire, pas demander pardon, mais c'est-à-dire un changement radical de mentalité. À condition d'accepter maintenant que tu as la connaissance, de vous abstenir l'un et l'autre de tout rapport sexuel jusqu'au mariage. Et ma soeur, s'il te dit non, je ne veux pas, je préfère qu'on continue, pose-toi des questions sur sa sincérité. Est-ce qu'il a vraiment envie de continuer avec toi? Ou il te confond, il te prend pour une prostituée alors que tu es une princesse. Si tu me veux, tu dois payer le prix pour m'avoir. Dites Amen. Si tu me veux, tu dois payer le prix. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un être rare. Tout ce qui est rare a de la valeur. J'ai une valeur. Ne me rabaisse pas. Je ne suis pas soldat. Je ne suis pas Kiabi. Non. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis la prunelle de son œil. Je suis une championne. Je suis une ambassadrice. Ma sita. Que les femmes disent Amen. Dans ce cas, il faut attendre quelques mois. Vous ne vous touchez plus pendant quelques mois et vous décidez de régulariser. Si le gars il te dit, ouais, mais on va régulariser plus tard. C'est d'abord l'église où tu vas là, finalement, on t'enseigne beaucoup de choses. Je n'aime pas ça. Hein? Il y a des gens qui nous en veulent parce qu'on enseigne la vérité aux autres et que la connaissance est en train de libérer beaucoup de gens. Alors, s'il ne veut pas accepter ça, je suis désolé, m'assiste à. Tu dois prendre une décision. Tu ne veux pas écouter ce que Dieu dit? Tu dis, oui, mais dans mon cas, c'est particulier. Le Seigneur comprend. Ok. Rendez-vous d'ici quelques temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ok. Question suivante. Jusqu'à quel niveau d'intimité pouvons-nous aller pendant nos fiançailles? Quelle est la limite à ne pas franchir pendant que vous êtes fiancé? C'est très simple. Lorsqu'on est fiancé, on ne s'appartient pas encore l'un à l'autre. Lorsqu'on est fiancé, on a simplement pris la décision, un engagement réciproque de dire, on va se réserver mutuellement l'un pour l'autre. Amen. on va se réserver mutuellement l'un pour l'autre. Donc, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient vers toi, ah, moi je suis engagé déjà ailleurs. Mais on n'est pas marié. C'est-à-dire que moi, en tant que sœur, toi, tu n'as pas à lui être soumise. Il y a des hommes qui sont possessifs, mais graves. Maintenant, les fiancés, attention, maintenant tout ce que je dis, c'est vrai. Hey, on n'est pas marié encore. Tu me dis quoi là? C'est quoi? On n'est pas marié. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas lié. On est lié lorsqu'on est marié. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas lié. Je sais que ce que j'ai dit, ça peut être dur pour certaines personnes. Ça réveille beaucoup de choses en vous, n'est-ce pas? Quelle est la limite à ne pas franchir? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas faire? Ben, c'est simple. Tu as le droit de faire en privé ce que tu fais en public. Et réciproquement. Vous n'êtes pas marié. Tout ce que tu peux faire à la lumière, c'est ce que tu peux faire aussi en privé. Si tu ne peux pas le faire en privé, tu ne peux pas le faire à la lumière. Non, pardon. Si tu ne peux pas le faire devant tout le monde, ne le fais pas en privé. Elle ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Alléluia. Donc, évitez les attouchements physiques. Évitez les... Attention aux paroles de flirt. Tu es le soleil de ma vie. Ouh! Oh, James! Oh! Il m'a dit que je suis le soleil de sa vie. Ok, bon, ça encore, ça peut passer. Ça encore, ça passe. Ça, c'est des paroles... hein? Mais attention, paroles de flirt. Il y a des hommes qui ne savent pas tenir leur langue. Parle un langage vulgaire devant une femme. Ma soeur, quand tu vois un homme qui te parle comme s'il parlait à une prostituée, je t'autorise à faire comme dans des dessins animés. Tu lui mets un coup de pied. Là où il passe. Tu n'es pas une prostituée. Dites amen. Manque de respect. Et malheureusement, on évolue dans une société où les hommes, de plus en plus, manquent de respect envers les femmes. Dans les lycées, ils sont en train de réfléchir aujourd'hui, même à créer maintenant des lycées masculins, des lycées féminins. Pourquoi? Entre les tournantes et toutes ces abominations où les hommes, ils grandissent dans un environnement où forcément, les parents ne savent pas parler à leurs enfants. Et donc, les enfants ne savent pas parler aux filles. Papa insulte maman à la maison devant les enfants. L'enfant arrive dehors, il voit une fille, il lui... Je n'ai pas donné les mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Où il entend? Non, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Amen. On se comprend? Amen. Attention, ne laisse pas tes oreilles écouter n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, tes oreilles ne sont pas une déchetterie industrielle. On vient balancer toutes les sordides, toutes les stupidités et toutes les choses sordides. Moi, vous savez, moi, mes oreilles sont saintes. Tu ne viens pas me raconter ton n'importe quoi. Vous savez que mon frère et moi j'ai un principe, hein, même quand je parle avec une soeur, j'ai compris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas écouter. Oui, pasteur. Oh, il faut pas aller, ça va pas. On était comme ça, il m'a dit ceci. Ok, ça va. Mais alors, il y a des détails sexuels. Elle va vouloir rentrer. Il dit, attends, ma femme vient ici. Oui, il a fait comme si, au lit, il m'a retourné. Pardon. Mes oreilles sont saintes. Ça, ma femme vient chez toi, écoute-la, moi à tout à l'heure. Quand vous avez fini de parler, moi je reviens. Faut être sage. Dites amen. Tu deviens ce que tu entends. Et toi, demain, après ça, tu vas prier. Tu es en train de prier en langue. Tu entends seulement. Il m'a retourné. Oui, je dis au Seigneur. Au nom de Jésus. Ah, sors. Sors de moi. Non. Superman est. La Bible dit fuyez l'impudicité. C'est pas seulement l'acte. Fais attention aux pensées. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Toi qui es marié, même toi, oh, toi qui es célibataire, c'est pire. Mais même toi qui es marié, laissez-moi vous dire, Satan ne respecte pas le mariage. Il hait le mariage. Parce que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, lorsque tu te maries, tu es en train d'obéir à une institution que Dieu a établie. Donc involontairement, tu es quelque part en train de faire ce que Dieu veut. Et Satan déteste ça. C'est pour ça qu'il va attaquer le mariage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, mon frère, ma soeur, fais attention. Le mariage n'est pas un sauve-conduit. Le mariage n'est pas, comment dire ça? Par le mariage, tu n'es pas immunisé contre le péché. Amen. Donc, pour être sage, jusqu'aujourd'hui, je dois faire preuve de sagesse. Question suivante. Bon, il faut que je finisse ça aujourd'hui. Je vais aller un peu plus vite, excusez-moi. Amen. Question suivante. Jusqu'à quelle heure tardive une femme devrait-elle rester chez son fiancé? C'est ça, non? Oui. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. Je ne l'ai pas mis là-dessus. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. Vous devez comprendre une chose. C'est que nos vies doivent être des sujets, non pas de troubles, mais de témoignages. Amen. Si tu restes tard chez ton fiancé, ce n'est pas forcément bon, ce n'est même pas un bon témoignage pour le voisinage. Ce n'est pas un bon témoignage pour ces personnes qui sont autour de toi que tu vas mener à Christ. Dites Amen. Comment veux-tu expliquer? Comment veux-tu expliquer à ton voisin que la personne que tu vois, qu'il voit sortir de chez toi, la soeur qui sort de chez toi à 24h ou à 23h30 le soir, tous les jours, c'est simplement une soeur en Christ ou un frère en Christ? Un jour tu vas dire, tu sais, Christ est bon. Ok, Christ est bon, mais franchement, même si tu ne triches pas, tu aurais du mal à le convaincre. Parce que ton témoignage n'est pas bon. Nos vies doivent refléter la lumière. Amen. Question suivante. Quelles sont les questions fondamentales qui devraient être abordées pendant les fiançailles? Très bonne question. Le temps des fiançailles devrait être mis à profit pour discuter et planifier les méthodes de résolution de conflits. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des conflits. Dites Amen. Je dis qu'il croit qu'il n'y aura pas de conflit, mais nous on s'aime trop. Ah ok, il n'y a pas de problème. Attends encore un peu. On doit prendre ce temps pour planifier comment est-ce que nous on va résoudre nos conflits. On doit planifier ce qu'on appelle la gestion financière. On doit en parler avant qu'on soit marié. Pendant qu'on est fiancé, on en parle. La gestion financière commune. Est-ce qu'on aura un compte bancaire? Est-ce qu'on aura deux comptes bancaires? Un compte pour chacun des conjoints? Est-ce qu'on aura trois comptes bancaires? Un compte pour chacun et puis un compte joint dans lequel on met toutes les dépenses communes? Ces questions doivent être abordées pendant les fiançailles. La définition des responsabilités. Qu'est-ce que c'est que pour toi ma responsabilité en tant que femme? Qu'est-ce que c'est que pour toi ma responsabilité en tant qu'homme? Est-ce qu'on est d'accord dessus? Si on est d'accord, ok. Si on n'est pas d'accord, ciao, ciao, bye, bye. Combien d'enfants voulons-nous, etc. Mais au-delà de tout ceci, j'ai envie de dire surtout, apprenons pendant les fiançailles à comprendre nos langages de communication et à harmoniser nos points de vue respectifs. Amen. Apprenons à comprendre les langages de communication. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas entendre? À quoi est-ce qu'elle est sensible? On doit voir ça pendant les fiançailles. On doit apprendre à discerner ça. Alléluia. Question suivante. Quelles sont les qualités qu'une femme devrait regarder chez un homme, sachant qu'aucun de nous n'est parfait? Je l'ai dit et je le redis encore rapidement. Premièrement, tu dois regarder quoi? Tu dois regarder la vision. Amen. Et ensuite, tu dois regarder le caractère. Tu dois regarder la vision, la passion, tu dois regarder le caractère. Je l'ai dit une fois, recherche une personne qui te stimule spirituellement. Qui te challenge, pardon, spirituellement. Il faut que... Bon, ça va être dans les 27 points, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Ça va être dans les 27 points qu'on verra la semaine prochaine. Mais regarde la vision, regarde le caractère. Regarde sa capacité à être protecteur, à être soutien pour toi. Est-ce qu'il te soutient? Est-ce qu'il est un protecteur? Est-ce qu'il est quelqu'un qui veut te développer, qui est disposé à te développer? Et à pourvoir pour toi. C'est ça. En tout cas, dans tous les cas, ma soeur ne focalise pas sur le diplôme. Le diplôme, quelqu'un qui est diplômé ne veut pas dire qu'il a une grande vision. Demain, le diplôme passera. Amen. Aujourd'hui, les diplômes sont déjà en train de passer. Beaucoup de gens se retrouvent dehors. Qu'est-ce qu'il fait quand il se retrouve dehors? Est-ce qu'il s'apitoie? Oh, je suis docteur. En philosophie. Et on m'a licencié. Ah! Ça fait comme Bernard, l'autre, laquelle est se suicider. Parce qu'on lui a levé une étoile. Le gars, il a déprimé. Il s'est foutu une balle. Voilà quelqu'un qui n'a pas de vision. Il n'a pas de vision et d'ailleurs il a une pauvre image de lui-même. Alléluia. Parce que si l'image que tu as de toi est basé sur le travail que tu as un problème. On ne va pas en parler aujourd'hui. Alléluia. Il y a un point sur lequel j'ai envie de m'étendre aujourd'hui, donc je vais passer vite. Point suivant. Ah, c'est une très bonne question, ça. Excusez-moi. Oui, voilà. En tant que croyant et fiancé, pouvons-nous nous tenir et nous embrasser en public? Ça, c'est une très bonne question. Bon, tenir la main, il n'y a pas de problème. Tenir la main, c'est simplement, ça dépend simplement toujours du contexte culturel dans lequel on a grandi. Par contre, je dirais, s'embrasser sur la joue est un signe suffisant d'affection qui permet de montrer l'appréciation qu'on a pour une personne. Dites Amen. Je sais qu'il y en a qui ça dérange. Pouvons-nous nous embrasser en public? Est-ce que tu peux embrasser une personne sans avoir dans ton esprit, franchement, une autre pensée? Est-ce que tu peux embrasser une personne sans avoir dans ta pensée, dans ton cœur, le désir d'aller plus loin? Tu peux? En tout cas, ma soeur, toi peut-être, mais lui, non. Non. Tu ne peux pas. Autrement dit, tu risques même déjà de pécher en pensée. Jésus a dit que si tu regardes, le Seigneur a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens ils disent, non, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que les caresses sont permis? Les caresses, oh, les caresses. Alors là, écoutez-moi bien. Il y a sous la peau de l'homme 8 millions de terminations nerveuses, de terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses sont reliées au cerveau par des espèces de fibres qui ressemblent à des câbles électriques. Dès que tu commences à caresser une personne, ça prend en moyenne 3 à 20 secondes chez un homme pour envoyer l'information au cerveau. Parce qu'il y a des terminaisons nerveuses sous la peau. 8 millions. Et lorsque le cerveau reçoit cette information, le cerveau libère des hormones. Et au final, ce n'est plus la raison qui te dirige, ça devient les hormones qui te conduisent. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui penses. C'est maintenant les hormones qui commencent à bouillir à ta place. Et la même expérience chez la femme existe. Sauf que chez la femme, ça prend en moyenne, il paraît, 15 à 20 minutes avant de chauffer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est très probable que si tu commences à caresser, tu donnes le doigt, après il veut la main. Tu prends la main, après il veut tout le bras. Et puis quand tu donnes le bras, maintenant il veut tout le corps. Alors, après il va rentrer dans ce que j'appelais la dernière fois le body ministry, le ministère corporel. Il commence à toucher. Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Rosso catarende rebobos. Oh, recoso. Oh, c'est bon. Oh, oh, oh. Hey, c'est plus le Saint-Esprit ça mon ami. Le ministère corporel, tu ne la touches pas et tu te préserves toi-même. Alléluia. Vous savez, mieux vaut patienter encore un peu et puis faire de son foyer avoir une fondation de bénédiction, de prospérité dans son mariage, plutôt que de se presser et de voir la malédiction est le fondement de son foyer. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Une personne qui trompe Dieu est une personne qui peut te tromper facilement. Donc si ce frère ne s'est pas attendu jusqu'au mariage maintenant là, ou cette soeur, qu'est-ce qui prouve qu'après le mariage elle sera fidèle? Parce qu'elle aura trompé Dieu. Dites Amen. Vous savez, nous on a un principe. Moi, j'ai un principe. Je ne prête pas d'argent à quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, il vole Dieu. Non, ne me regardez pas comme ça. Je parle sous l'autorité de mon gouvernement. Dites Amen. Ah là, les gens n'aiment pas dire Amen. Nous, on aime la parole de Dieu. Parce qu'il ne veut que le meilleur pour nous. Dites Amen. En fait, de toute façon, moi, je vous avoue que je suis libéré de Amen. Moi, je marche tout seul. Dieu et moi, c'est la majorité absolue, donc il n'y a pas de problème. Alléluia. Pourquoi? Je peux lui donner de l'argent, mais je ne prête pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il ne pourra pas rembourser. Je le sais déjà. Parce que s'il vole Dieu, s'il n'arrive pas à honorer Dieu, pourquoi voulez-vous qu'il arrive à honorer moi? Tu n'arrives pas à honorer le Créateur, comment veux-tu honorer la créature? Tu n'arrives pas à honorer le Maître, comment veux-tu honorer son serviteur? Quelqu'un me dit, je te remets ça dans une semaine. Je dis, gars, est-ce que tu payes ta dîme? Oh, tu comprends en ce moment? Je dis, ok, bon, mon ami, franchement, moi, non. Non. Je peux donner, mais je ne prêterai pas. Alléluia. Comprenez bien, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous obéissons aux principes du royaume de Dieu. Le monde a essayé d'embrasser et de caresser. Ils font tous ça. Aujourd'hui, tous, ils échouent. Alors, excusez-moi, je suis quand même bien placé pour dire, je préfère obéir aux lois du royaume de Dieu. Au moins, je sais que le succès, il est garanti. Parce que tu peux dire, ouais, mais je veux faire comme les gens dans le monde. Oui, mais tu n'es pas du monde. Nous n'obéissons pas aux mêmes principes. La preuve, c'est que quand tu vois où ils en sont aujourd'hui, regarde la société dehors, tu vas voir si ça donne envie. Moi, ça ne donne pas envie. Et comme ça ne me donne pas envie, je préfère observer les principes de Dieu parce que je sais qu'ils sont la clé de ma prospérité à tous égards. Alléluia. Le succès a un prix, l'obéissance aux principes de Dieu. L'échec a un prix, mais il est beaucoup plus douloureux. Suis les lois du monde et tu échoueras. Suis les lois de Dieu et le succès est garanti. Alléluia. Ok. Je vais finir avec une dernière question que j'ai absolument envie de voir aujourd'hui. Donc tu vas passer au tout dernier slide. On reviendra sur les autres la semaine prochaine. Celui-là, j'ai envie de finir dessus. La question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu... Ah, ça c'est une bonne question. Interdit-il les rapports sexuels hors du mariage alors que nous nous aimons? Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de répondre à cette question. Voyez-vous, je tiens à vous dire une chose. Le sexe, et suivez-moi bien, j'ai fini avec ça. Le sexe devant Dieu revêt une dimension spirituelle que nous devons comprendre. Le sexe, c'est un acte sérieux et profond qui lie deux personnes émotionnellement, physiquement et spirituellement. Le sexe a été créé par Dieu et il n'a rien d'impur, contrairement à ce que la religion nous fait croire. Ayant dit, attention! Non, ça n'a rien de sale. Dites Amen. C'est une bonne chose à condition simplement qu'elle s'effectue dans le respect de la législation divine, c'est-à-dire dans le cadre d'une alliance qu'on appelle le mariage. Pourquoi est-ce que Dieu interdit cela? Parce que voyez-vous, le sexe, le rapport sexuel est un acte très spirituel, mais que les gens ne comprennent pas. Et je vais vous expliquer en quelques minutes aujourd'hui qu'est-ce que c'est que cette dimension. Alors, dans le temple de Jérusalem, dans l'Ancien Testament, il y avait trois parties. Il y avait une partie qu'on appelait le parvis extérieur. Il y avait une partie qu'on appelait le lieu saint. Il y avait une autre partie qu'on appelait le lieu très saint. Et toutes ces parties se retrouvaient dans le temple de Jérusalem. Le temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Et le lieu très saint s'appelait encore le Saint des Saints. Et c'était l'endroit où se déroulait l'adoration. Vous me suivez? L'endroit où personne n'accédait s'il n'était pas sous alliance avec Dieu, au risque de mourir. Le Saint des Saints, c'était l'endroit où résidait en permanence la présence de Dieu. C'était un endroit où quand le sacrificateur ou encore le prêtre entrait dedans, il tombait en extase devant la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint des Saints, ou le lieu très saint, était séparé par le lieu saint par un voile que personne ne pouvait franchir si ce n'était le souverain sacrificateur ou encore le prêtre. Est-ce que vous me suivez? À part le prêtre et le souverain sacrificateur du temple, personne ne pouvait rentrer dedans, sinon il tombait raide. Mort. Vous me suivez? La Bible dit que lorsque Christ a expié à la croix, le voile du temple a été déchiré. Et tous, nous avons eu désormais accès à la présence de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir adorer Dieu. Vous me suivez? Or, la Bible dit que ça, ce n'était qu'une image, une figure des choses à venir. Et qu'en réalité, le vrai temple du Saint-Esprit, dans la pensée de Dieu, c'est le corps de l'homme. C'est ton corps. Alléluia. Et le temple de Jérusalem n'était qu'une représentation du corps. Dieu a créé la femme avec un parvis extérieur, un lieu saint et un lieu très saint. Et chez la femme, le lieu très saint est séparé du lieu saint par ce qu'on appelle un voile. Vous me suivez? Vous me suivez? Ce voile chez la femme s'appelle l'hymen. Et le but du voile, c'est de réserver l'accès au temple de la femme uniquement au prêtre ou au souverain sacrificateur qui est lié avec elle par une alliance. Quelqu'un commence à comprendre de quoi je parle. Pourquoi le voile? Le voile est là simplement afin qu'il n'y ait pas de profanateur qui vienne souiller le temple. Il est là pour protéger. Est-ce que vous me suivez? Or, la Bible dit que l'homme, quand il est marié, il est le chef de son foyer. Il est le sacrificateur et le prêtre de son foyer. Seul celui qui est sous alliance avec cette femme a le droit de passer au-delà du voile. Sinon, il risque d'être frappé par la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le temple de Dieu. Elle ne s'appartient pas à elle-même. Elle est le temple du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un rentrait, profanait le temple de Dieu, il était frappé de mort. Et de même qu'au niveau spirituel, celui qui entre dans le lieu très saint expérimente l'adoration, l'extase. De même, celui qui entre dans le lieu très saint de la femme expérimente l'extase. Vrai ou faux? Je ne vous entends plus. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que le rapport sexuel soit une représentation de l'adoration au niveau spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a voulu que le rapport sexuel soit une représentation d'une expérience spirituelle puissante et bénéfique. Et lorsque ce n'est pas respecté, c'est comme ça que viennent les maladies. Hépatite A, hépatite B, sida, toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce que le temple a été profané, et quand le temple a été profané, la sanction arrive. Le mot hymen vient du latin hymen, même, H-I-M-E-N. Et le mot hymen veut simplement dire mariage. C'est un mot d'origine latine qui a été créé, introduit dans la langue française au 16e siècle. Alors vous comprenez, Dieu veut que le corps de la femme soit honoré et pas profané. Parce qu'il considère que le corps de la femme, c'est son corps à lui. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Ton corps, ma soeur, ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Il considère qu'il est saint. Il a mis un voile. Il dit personne ne rentre dedans, si ce n'est le souverain sacrificateur. Et tant qu'il n'est pas lié par une alliance avec toi, il ne rentre pas. Quand j'ai compris ça, j'ai eu peur. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a quelqu'un qui a compris cela. Qui se dit, comment? Mais c'est grave, comment puis-je faire? La Bible dit que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge à un seul époux. Lorsque tu comprends et que tu décides de te consacrer, Dieu dit, je te refais vierge. Je te vois vierge. Je considère que le voile est remis pour toi en place. Alléluia. Dieu ne condamne pas. Alléluia. Par contre, quelqu'un dans cette salle a entendu cette connaissance, cette révélation. S'il choisit de désobéir, ça le regarde. Mon frère, Si tu veux aller, si tu veux aller profaner le temple de Dieu, ne sois pas étonné demain si tu moissonnes les conséquences de ce que tu auras semé. Le temple de Dieu doit être honoré et pas profané. Dieu est un Dieu jaloux. On va incliner nos têtes et on va prier. Tu vas demander au Seigneur pardon pour ce que tu n'avais pas compris. Pardon pour avoir profané le temple de Dieu. Il ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, mon frère. Ma soeur, tu ne t'appartiens même pas à toi-même. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es saint. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est ça qu'il dit que tu es. Alors nous allons demander au Seigneur pardon. Et nous allons le remercier pour sa parole. Et nous allons dire, Seigneur, je crois aujourd'hui que tu fais de moi une femme vierge de nouveau. Et par la grâce de Dieu, le temple que je suis ne sera plus jamais profané par un impie. Il sera profané par un homme de Dieu, un sacerdoce royal qui entre dans une alliance avec moi avant de pouvoir me toucher. Que quelqu'un élève la voix et prie. Demandez au Seigneur pardon. Lord, we thank you. Merci pour ta parole. Nous te demandons pardon pour l'ignorance. Nous te demandons pardon parce que nous périssions à cause de notre manque de connaissance. Nous avons profané le temple de Dieu qui est saint. Notre Père, nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Mais tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un se retourne de ses mauvaises voies, s'il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois ce matin que tu fais de ma sœur, tu fais de mon frère, une femme, un homme, remis complètement à neuf dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, notre Père, pour ta parole. Et nous prions simplement ce matin pour la grâce, la capacité divine, notre Dieu, de désormais être fidèle à Dieu. Prendre une résolution aujourd'hui par la grâce de Dieu et par la foi. Nous te disons merci de ce que nous ne chancellerons plus jamais dans le nom de Jésus. Dieu me met à cœur de demander aux sœurs, toutes les sœurs, qu'elles soient mariées ou pas mariées, de se lever. Toutes les sœurs, celles qui peuvent se lever, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'entends ta parole. Aujourd'hui, je me détourne, je me repens de mes mauvaises voies. Je te demande pardon pour ce que je n'avais pas compris. Je te demande pardon pour mon ignorance qui a apporté la destruction dans ma vie, dans mon foyer, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je te demande de me laver, de me purifier, de me sanctifier par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que je ne suis plus la même. Je confesse que je suis de nouveau une vierge en Christ Jésus. Merci pour le sacrificateur, pour cet homme d'honneur, cet homme de valeur que tu emmènes vers moi dans le nom de Jésus. Cet homme qui saura apprécier ma valeur, mon unicité, ma différence. Cet homme qui saura me respecter, me chérir, me protéger. Dans le nom de Jésus, je te rends grâce de ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie, une chose nouvelle, 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 nouvelle. Je ne serai jamais plus la même au nom de Jésus. Je compte sur toi, j'espère en toi, je m'appuie sur toi, je suis une princesse. Mon corps ne sera plus jamais profané, il sera honoré par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Je suis une championne. Je suis la princesse de l'Éternel. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Et mon héritage ne sera pas anéanti. Ma destinée est certaine. Ma destinée est glorieuse. Ma destinée est excellente en Christ, au nom de Jésus. Je suis libéré de la confusion. Libéré de toute forme d'impureté, d'immoralité, d'esprit impur qui avait profané mon corps. Dans le nom de Jésus, je suis libre et je reçois la vie de Dieu dans mon corps, dans tout mon être. Maintenant, je suis libre et je te rends grâce de ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras. Béni soit le nom du Seigneur, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, que quelqu'un acclame le Seigneur à cet endroit. Hey! Yes!